faire avec les étudiants de l'ISIPAMUCHI à Kinshasa. Au menu, une émission spéciale sur le bon usage des médias sociaux, sur les débouchés après des études en informatique et bien d'autres sujets encore. Au Capi Service, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater ce vendredi 13 mars 2015 de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Au Capi Service, à votre service.
L'invitation est lancée à tous les camarades étudiants de l'ISIPA. Vous êtes à ISIPA Kitega, ISIPA au commandement. On va se retrouver ce vendredi à l'ISIPA Mouchi. Voilà, pour une émission spéciale à l'occasion du 13e anniversaire du Radio Capi. Cordial bienvenue à tous les camarades informaticiens, de tout ce qui apprennent l'informatique à l'ISIPA. Voilà, le rendez-vous est pris pour ce mercredi, pardon, pour ce vendredi 13 mars. De 9h à 11h à l'ISIPA Mouchi. Eh bien, nous allons aborder le premier thème de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler emploi. Comment faire face à la mention expérience professionnelle exigée par les entreprises. Vous venez de décrocher, par exemple, votre diplôme de fin d'études supérieures ou universitaires. Vous êtes à la recherche d'un job. Vous recherchez un travail. Cependant, dans toutes les offres qui correspondent à votre profil, les offres qui vous intéressent, les recruteurs exigent une expérience professionnelle de 3 à 5 ans. Cette mention décourage souvent, je vous dis, ça décourage souvent plusieurs demandeurs d'emploi. Alors, les experts disent, il faut pas se décourager. Il y a toujours moyen de trouver un job malgré cette difficulté. Alors, qu'il faut-il faire dans ces cas? Yves Daniel Gavan est spécialiste en ressources humaines. Il intervient depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Yves Daniel, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
D'abord, la première question est de savoir pourquoi les recruteurs, dans la plupart des offres qu'on voit, ils exigent toujours une expérience professionnelle allant de 3 à 5 ans, alors qu'il y a des gens qui cherchent de l'emploi qui viennent fraîchement de l'université.
Ok, merci pour l'invitation. Je voudrais d'abord commencer par une pensée tirée de notre bouquet « Autoroute du succès professionnel ». Qui dit que il n'existe pas d'expérience sans expertise, mais il est possible d'avoir une expertise sans expérience. Ce qui revient à dire que sans expertise, il est difficile d'acquérir de l'expérience. Donc il faut d'abord savoir que personne n'est né avec une certaine expérience, et l'expérience n'est pas héréditaire. Donc l'acquérir, c'est un processus cohérent qui nécessite l'assiduité tant dans l'apprentissage que dans l'applicabilité à un métier ou à une profession. Donc je dis généralement nous avons deux types d'emplois. Nous avons ce qu'on appelle les emplois de carrière et les emplois circonstanciels. Les emplois de carrière sont souvent l'apanage du gouvernement qui crée de l'emploi suivant une politique efficace en la matière et donnant ainsi la possibilité aux jeunes diplômés, comme vous l'avez dit, qui viennent fraîchement de finir l'université, d'accéder au travail sans une expertise au préalable. Mais le deuxième type d'emploi qu'on appelle les emplois circonstanciels sont souvent des emplois qui sont offerts par les ONG ou les programmes internationaux qui travaillent selon les objectifs bien fixés et dans le temps et en tenant compte des moyens, avec l'obligation d'une gestion axée sur les résultats. Donc ces ONG sont contraints à recruter des personnes avec beaucoup plus d'expérience vu que ils ne sont là que pour un temps et ils doivent faire preuve de certains objectifs. C'est la raison pour laquelle vous trouverez que les emplois circonstanciels sont beaucoup plus exigeants en matière d'expérience que les emplois de carrière qui se font de plus en plus rares. Mais triste est de constater que lorsque vous voyez la plupart des offres qui sont publiées chez nous, 80% sont des emplois circonstanciels, c'est-à-dire proposés par les ONG internationales et certains programmes de développement internationaux. Ce qui revient à dire que il n'est pas très aisé lorsqu'on cherche le travail dans les circonstances qui sont les nôtres, où l'emploi, l'État ne crée pas suffisamment d'emplois pour donner la chance aux jeunes d'accéder. Et les gouvernements, les ONG qui viennent, ils ont un mandat précis. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, ils sont en train d'exiger aux jeunes de détenir une certaine expérience parce que Ils sont là pour travailler pendant 5 ans et produire les résultats. Alors, ils n'ont pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui doit apprendre, alors que ça va mettre mal à l'aise l'atteinte de certains indicateurs. Mmh. C'est la raison pour laquelle vous voyez que de plus en plus, on est en train d'exiger les expériences dans les offres.
Voilà, et cela décourage pas mal les demandeurs d'emploi, surtout les jeunes étudiants qui viennent de terminer. Et ils se sentent coincés, ils sont découragés. Les experts disent que c'est possible malgré cette exigence, il est toujours possible de postuler et d'avoir la chance d'être embauché. Alors qu'est-ce que les jeunes demandeurs qui sont sans expérience, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas?
Ok, je vais partager avec quatre facteurs ou quatre principes clés qui doivent retenir pour faire face à cette mention-là qui décourage plus d'une personne. Le premier facteur ou le premier principe que je vais partager avec eux ce matin, c'est se préparer à l'emploi. Cela veut dire on doit se préparer à l'emploi pour éviter de subir l'emploi. Parce que la plupart des demandeurs d'emploi aujourd'hui sont en train de subir l'emploi au lieu de choisir l'emploi. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre les expressions telles que « tentons seulement ». Quand on voit l'offre, on dit « on essaie de tenter seulement ». Or, en principe, on doit déjà se préparer à l'emploi depuis même le banc de l'école. Curieusement, notre appareil éducationnel renforce malheureusement encore ce phénomène où on sort des gens de l'université, des gens qui ne savent même pas où aller, avec un diplôme en main, mais ils ne savent pas exactement ce qui doit se faire. Donc la première des choses, on doit se préparer à l'emploi. Lorsqu'on se prépare par rapport à cet emploi, on peut faire face à cette mention-là, peu importe le nombre d'années proposées en termes d'expérience. Deuxième facteur ou deuxième principe, c'est le coaching. Donc, accéder à l'emploi, à certains emplois, ce n'est pas toujours aisé. Et cela nécessite par moment d'être accompagné par des spécialistes ou par des experts en ressources humaines. Ou encore par des cabinets spécialisés en la matière. Donc, si on finit les études, on ne doit pas seulement se focaliser soi-même à aller à gauche, à droite. Mais il y a des spécialistes qu'il faut consulter et qui peuvent vous doter une certaine capacité, qui peuvent même vous mettre en liaison avec certaines personnes qui ont l'expérience dans les secteurs où vous voulez travailler, pour vous permettre de vous préparer et de vous rapprocher de cet emploi, peu importe le nombre d'années qu'on exige comme expérience. Troisièmement, c'est le galop d'essai. Le galop d'essai professionnel, ce sont des types de stages d'intégration professionnelle qui sont différents de stages académiques qui sont souvent rudimentaires, où on vous donne juste une fiche de recherche, vous allez, on signe là-dessus, et vous ne savez même pas qu'est-ce que vous êtes allé chercher, mais vous voulez à la fin, on vous cote tout simplement. Donc les stages d'intégration professionnelle, le bénévolat, le volontariat, font partie de ce qu'on appelle le galop professionnel. Mais il est encore triste de constater que chez nous, nous voyons même le demandeur d'emploi qui prennent le luxe de se réveiller à 11h, qui passent toute leur journée en train de jouer aux dames, de discuter sur des sujets qui ne cadre même pas avec le travail, alors que lorsqu'on cherche le travail et on vient de finir l'université, on n'a pas l'expérience, on doit chercher à faire des galops d'essai professionnels, on doit chercher même à faire le bénévolat, les volontariats dans certaines structures qui offrent le même type de poste que vous êtes en train d'envisager. Ça vous permet quand même de vous rapprocher en termes d'expérience ou d'expertise en travaillant là-dessus et ça va vous donner déjà quelques atouts. Et le quatrième point que je vais discuter ou partager avec les amis,
oui,
c'est le salon d'emploi. Donc, il faut savoir qu'il y a des salons d'emploi déjà. Chez nous, nous avons eu les Job Days à Lubumbashi. Nous avons eu Job Conférence à Kolwezi avec Medumas. Ce genre d'activité, les salons d'emploi, ce sont des forums qui permettent aux demandeurs d'emploi d'être en contact directement avec les recruteurs pour des échanges beaucoup plus approfondis. Donc, avec ces quatre principes, ça permet déjà à quelqu'un qui n'a aucune expérience de faire face à cette mention, peu importe la durée qu'on présente. Et il faut savoir aussi que l'expertise est plus prépondérante que l'expérience, parce que l'expérience n'est que l'applicabilité dans la durée. Donc, lorsque vous durez à exercer un métier, vous allez acquérir l'expérience. Mais pour arriver à ces métiers, il faut d'abord prouver que vous avez une certaine expertise. Donc, voilà un peu pour lancer le débat, les quelques points que je voulais partager avec les autres.
Bien, comment faire face à la mention expérience professionnelle exigée par les recruteurs? Daniel, plutôt Gabriel, nous appelle des Kindou dans la province du Maniema. Vous êtes, vous voulez également participer? Composez les 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment faire face à la mention et expérience professionnelle exigée par les entreprises? Yves Daniel nous a donné quatre principes clés pour contourner cela. Gabriel, vous êtes à Kindou. Bonjour.
Bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation, Gabriel?
Ok, j'ai deux petites préoccupations. La première, c'est autour de l'expérience que notre invité là.
Mmh.
On essaie de faire des stages, de contacts, différents contacts pour qu'on puisse être dans les critériums en quelque sorte. Mais le grand problème que nous avons, c'est la manière de prouver le stage qu'on a fait. Parce que souvent quand on fait les stages dans le bénévolat, si vous demandez une attestation, on vous dit bon, c'était un bénévolat. Et que si on vous donne l'attestation, peut-être vous pouvez réclamer des paiements, ainsi de suite. Et on a des difficultés à prouver qu'on a fait les stages par-ci, par-là, pour avoir l'expérience requise.
Comment ça, vous avez du mal à prouver? Parce que quand vous faites, par exemple, un bénévolat ou un stage, on vous donne une attestation à la fin.
Mais souvent ici chez nous, la personne avec qui vous avez travaillé ou votre employeur hésite de vous donner cette attestation-là.
Et pourquoi?
C'est la première difficulté.
Pourquoi il refuse de donner?
Il refuse, il dit peut-être que vous pouvez réclamer avec l'attestation que vous avez, vous pouvez réclamer quelque chose et ça fait des problèmes. Voilà la première préoccupation. Mmh. Je voulais demander à notre invité comment on peut arriver à prouver cela quand on n'a pas d'attestation. La deuxième préoccupation, je dis, peut-être c'est un peu en dehors, mais je voulais parler autour du critère âge. On sait qu'au Congo, ce n'est pas tout le monde qui finit juste l'école secondaire qui va directement à l'université. Il y a toujours un temps là pour préparer les frais pour aller à l'université, mais surtout, le gouvernement congolais, quand il met une offre, il critère 25 ans au maximum, 30 ans au maximum. Pendant qu'on a étudié on a commencé avec 30 ans ou 35 ans, on finit l'université avec 40, 45 ans. Et comment ces gens-là, comment ils doivent travailler pendant qu'ils sont déjà exclus par le critère âge? Comment on doit se comporter s'il y a le critère âge dans l'offre d'emploi?
D'accord, merci. Augustin, vous êtes à Kikwit, bonjour. Augustin de Kikwit, bonjour. Voilà, je crois qu'Augustin n'est plus en ligne. Yves Daniel, vous avez suivi Gabriel. Il a fait le volontariat quelque part ou un stage professionnel, mais on lui donne pas l'attestation parce que la personne ou le chef d'entreprise refuse de le faire. Sinon, Gabriel peut lui réclamer de l'argent après. Alors maintenant, comment il peut prouver qu'il a fait soit le volontariat ou un stage professionnel du moment où on lui donne pas un document qui le prouve?
Vraiment, je suis désolé lorsque une entreprise n'arrive pas à donner, à délivrer une attestation pour un bénévole ou un volontaire. C'est inaccessible parce que c'est le minimum qu'on doit faire lorsque quelqu'un passe faire le volontariat.
Mm-hmm.
Ce document reste un document clé qui atteste effectivement que la personne a fait les stages, parce que sans cela, nous sommes dans un milieu où la confiance, dont la méfiance s'est érigée en chef. Et il y a des gens qui donnent des titres qui n'ont pas. Donc c'est très difficile. Donc moi, je n'ai jamais rencontré ça personnellement. Ici où je suis, je connais plusieurs structures où nous avons envoyé les jeunes faire les volontariats à l'issue desquels ils ont des attestations. Donc je crois que le chargeur de ressources humaines bien formé savent que le minimum à remettre à un volontaire, c'est une attestation, parce que ça reste un document stratégique pour la poursuite de sa carrière professionnelle, surtout lorsqu'il est en train de rechercher l'emploi. Donc c'est de cette façon-là que je peux l'encourager. Mais je crois aussi que dans ces documents, vous ne pouvez pas, dans une attestation, vous ne pouvez pas aller réclamer de l'argent. Bon, peut-être qu'il y a eu des incidents pareils chez eux, mais à mon humble avis, je sais que régulièrement, on donne facilement ce genre d'attestation aux bénévoles ou aux volontaires.
Voilà. Bien, il parle aussi de le critère âge dans certaines offres de l'État, tel qu'il a dit, on exige que les candidats doivent être âgés, par exemple de 25 à 35, alors qu'il y a des gens qui veulent postuler qui ont 40 ans et qui se sentent d'office écartés. Que faire dans ces cas?
Oui, je crois que en matière de recrutement, le critère d'âge reste un facteur discutable parce qu'il y a des types d'emplois où on a besoin de gens qui sont un peu plus jeunes. Peut-être on a besoin plus de mobilité, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de créativité. Il y a aussi des postes où on a besoin de gens qui sont un peu plus âgés par rapport à une certaine maturité, par rapport à une certaine expérience. Donc c'est difficile dans nos régions, comme je l'ai dit, où l'emploi devient une denrée très rare. L'État ne crée pas d'emplois et les programmes qui viennent, ce sont des programmes avec des emplois circonstanciels et qui ont plus besoin de gens plus dynamiques, plus mobiles. Donc c'est toute la problématique qui revient sur la politique de l'emploi dans notre pays où on doit travailler durement pour avoir un programme, une politique efficace qui offre la chance d'emploi à tout le monde. Et ça pourra résoudre les problèmes. Mais demander aux partenaires qui viennent avec des emplois circonstanciels, je pense que c'est très difficile d'arriver à trouver des solutions concrètes.
D'accord.
Mais bon, ma foi, il faut faire avec.
Il faut faire avec. Comment faire face à la mention expérience professionnelle exigée par les recruteurs? Arsène, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, le journaliste, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, à propos de ce sujet, je pense que c'est bien de placer et de tracer cette expérience de 5 ans. Mais, comme l'invité venait de le souligner, ça pose problème pour le jeune universitaire de remplir ces conditions. Alors, si possible, les partenaires peuvent réduire cette expérience à 2 ans et aussitôt engager la personne concernée, qu'on puisse le mettre sous une formation accélérée afin qu'il soit expérimenté par rapport au domaine choisi.
Donc, vous demandez à ces ONG qui ont des programmes, par exemple, des 5 ans, et ils doivent rapidement atteindre les objectifs de réduire cette exigence à 2 ans et former les jeunes diplômés.
Oui,
c'est
oui.
Ça.
Donc, ce qui est possible pour être à la une et au programme proposé par l'offre ou l'ONG.
D'accord. D'accord. Vous êtes à Kananga, bonjour. Gentil Lomana, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Oui, j'ai une petite question à poser à notre invité du jour concernant le demande d'emploi, ce qu'il vient de parler. Nous avons constaté dans notre société où on a travaillé, moi je suis technicien de laboratoire, j'ai travaillé dans un centre de santé, où on m'a demandé une lettre de démotivation. J'ai adressé ma lettre de démotivation, on m'a demandé le CV, j'ai donné encore le CV. Après, on m'a donné de donner l'expérience de 5 ans, du moins 5 ans. Mais en fin de terminer, j'ai fait mon stage de perfectionnement à l'hôpital Bombergé de Chicago. Alors, à ma grande surprise, quand on m'a examiné, on a trouvé que non, l'examen qu'on m'a posé, j'ai réussi. Alors, on m'impose de donner toujours une lettre concernant l'expérience de 5 ans. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire?
Bien, Yves Daniel.
Oui, merci. Je commence par l'autre qui a souhaité qu'il y ait une formation, qu'on puisse réduire les critères et puis qu'on puisse passer à une formation. Je reviens pour rappeler que les ONG, comme tu l'as bien souligné, ont des programmes et des budgets bien limités. Ils ne viennent pas ici pour commencer à former des personnels, mais ils viennent pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, ils n'ont pas de budget pour former des gens. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est par rapport à notre appareillage éducationnel ou notre système éducatif, qui est tellement déphasé et où on ne prend pas soin d'être en contact avec ces gens de structure pour leur demander, lorsque vous voulez engager un directeur de programme, un chargé de suivi et évaluation, vous attendez qu'il puisse avoir quel genre d'expertise, pour que l'université aussi essaye d'adapter le contenu des enseignements par rapport à ces genres d'emploi. Mais l'université se comporte comme s'il était au ciel, et il fait des réformes, on passe de tels systèmes à LMD, on fait la perturbation des cours, on dénomine les cours autrement, sans tenir compte des gens qui doivent engager ces gens-là. Donc, l'université aujourd'hui, la forme actuelle de notre université contribue fortement à la création des chômeurs dans notre pays, si on ne sait pas faire de bonnes réformes. Donc, au lieu de demander aux ONG, demandons plus à notre système éducatif de revoir un peu le système d'enseignement pour permettre aux jeunes qui quittent l'université de se rapprocher un peu de l'emploi. Donc, je réponds aussi à notre ami à le forum d'expérience. C'est vrai. Il y a aussi certaines structures qui se cachent aujourd'hui derrière une certaine expérience professionnelle. Mais je vous dis que l'expérience en termes d'années ne représente rien si quelqu'un ne démontre pas une certaine expertise. Donc, en tant que spécialiste, je sais que nous arrivons par moment à recruter des jeunes qui viennent fraîchement de l'université, mais qui ont subi certaines formations de renforcement de capacité de manière spécifique, qui dépassent même des gens qui vous brandissent 10 années d'expérience, mais qui sont absolument vides.
Voilà, et vous avez dit tout à l'heure que personne n'est venu au monde avec une expérience professionnelle. Elle n'est pas non plus héréditaire, donc on l'acquiert au fil des années. Mais vous avez dit que vous avez donné 4 principes pour contourner cela. Il faut se préparer à l'emploi, il faut se faire coacher. Le coaching, vous avez parlé du galop d'essai, le stage professionnel, on peut faire le bénévolat, les volontariats quelque part, et puis ça vous permet d'avoir des diplômes. Et puis les salons, participer au salon d'emploi. On va accueillir Steve de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour M. Daniel et bonjour aux auditeurs de la Radio Café.
On vous écoute.
Oui, j'ai bien suivi notre invité qui a parlé des 4 étapes qu'il faut nécessairement ou qui est important à passer pour obtenir un emploi.
Oui. Allô? Oui, on vous écoute.
Oui, et moi je suis un cas particulier parce que apparemment j'ai suivi toutes ces étapes dont parlent les messieurs. J'ai une formation d'ingénieur forestier, j'ai été formé à l'université de Kinshasa avec le concours de l'université Laval, avec l'appui du programme PBF de la GIZ.
Oui.
Oui, j'ai passé par un stage professionnel, j'ai été coaché avec l'appui de la GIZ qui a engagé un expert en ressources humaines, un RH international qui nous a coaché.
Oui.
À tout ce qui est comment élaborer CV, comment passer à une méthode d'interview. La GIZ a organisé pour notre fin un salon d'emploi où il a invité tous les partenaires œuvrant dans le secteur 20 où nous avons participé. Mais aujourd'hui, on n'a pas toujours l'emploi. Que direz-vous à ces gens? Des personnes qui est passée par toutes ces étapes, mais qui n'a pas toujours d'emploi.
Et pourquoi vous n'avez pas toujours d'emploi jusqu'aujourd'hui?
Mais jusqu'aujourd'hui, c'est parce que, comme notre invité l'a bien dit dès le départ, que nous avons des emplois circonstanciels. L'État ne crée pas d'emplois dans ce pays. Et ces emplois circonstanciels des ONG passent de bouche à l'oreille. Ça, il faut le dire ouvertement. Si la GIZ veut engager quelqu'un, il doit d'abord interroger une ONG qui est, par exemple, WRI, WSVI pour savoir s'il y a des compétences au sein de ces ONG. Il y a plusieurs offres qu'on a pu postuler, on vous dira non, moi je ne sais pas. Ce poste sera occupé par quelqu'un qui est déjà dans ces conditions.
Hein? D'accord.
C'est ça le problème. Qu'est-ce que notre invité pourra dire à quelqu'un qui a suivi toutes ces étapes, le coaching, salon d'emploi, stage professionnel, 6 mois et qui n'a pas toujours d'emploi?
D'accord, merci. Mave Kisambika, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, Jody. Jody a suivi notre invité. Il a bien énuméré le problème qui surgit dans notre pays. Et il a raison de dire que la plupart d'entreprises qui recommandent, ce sont les organismes internationaux qui engagent souvent les diplômés, en fait, les personnes. Alors, je ne sais pas comment comprendre pourquoi l'État reste indifférent par rapport à ces
à ce phénomène. Moi, je ne sais pas comprendre aujourd'hui, vu les taux de chômage aujourd'hui en RDC. Et je n'arrive pas même à comprendre pourquoi l'État ne prend pas des précautions, ne prend pas des stratégies, ne prend pas de mesures pour couvrir cet espace, ces trous qui, des fois, dérange la plupart des jeunes aujourd'hui qui viennent de terminer à l'université, oui, qui se trouvent contraints à des conditions que les organismes internationaux proposent pour accéder au poste de travail.
D'accord.
Mais je voudrais demander aussi à l'invité quels seront les conseils peut-être qu'il pourra donner plutôt aux tenants des pouvoirs de notre pays pour pouvoir mettre les mécanismes pour pouvoir couvrir les taux, pouvant réduire les taux de chômage aujourd'hui à la RDC.
Bien, merci. Nous parlons de comment faire face à la mention expérience professionnelle exigée par les recruteurs. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jourdi.
On vous écoute.
Merci. Monsieur Jourdi, moi, j'ai seulement une préoccupation et puis je vais poser une question à notre invité. Moi, je voudrais savoir, parce que ce problème d'expérience-là, c'est quand même récurrent. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Alors, je voudrais demander à notre invité, d'après lui, quel est le rôle que le gouvernement devra jouer en cette matière? Parce que nous avons quand même un ministère de l'Emploi qui est censé s'occuper de ce domaine-là. Alors, quel est le rôle que le gouvernement doit jouer dans ces domaines? Parce que nous avons l'impression aussi que les Congolais, les demandeurs d'emploi congolais, et même le travailleur, apparemment, est abandonné à son triste sort. Voici l'unique préoccupation que j'avais aujourd'hui. Merci.
Bien, merci. Docteur Yves, vous avez la parole.
Merci. Notre ami qui a parlé il a suivi toutes les étapes.
Steve, voilà.
Ainsi de suite.
Steve, il a fait une formation. Moi, il est ingénieur forestier, mais il a suivi toutes les étapes, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé de l'emploi.
Oui, la question c'est que est-ce qu'il connaît comment on fait la candidature spontanée? Parce que les offres peut-être dans la filière où il est, se font rares, mais s'il avait suivi notre intervention sur la candidature spontanée, je crois qu'il devait trouver le travail. Parce que le travail, on n'attend pas seulement les offres, mais on peut aussi soi-même, comme on l'a dit à l'émission passée, créer des candidatures spontanées pour se faire embaucher, se faire utile. Donc, qu'il puisse d'abord faire des candidatures spontanées, je pense qu'il pourra avoir de bons résultats. Bon, les deux derniers, on puisse demander qu'est-ce qu'on va dire au gouvernement. J'ai dit que je suis consultant, je ne suis pas ministre de l'Emploi, mais en tant que spécialiste, je peux quand même donner deux ou trois choses par rapport à ça. Vous savez, pour élaborer une politique d'emploi, il y a un élément clé, c'est-à-dire lorsque une entreprise vient se créer, d'abord, premièrement, c'est l'État qui doit créer des emplois pour donner la chance aux nationaux de trouver du travail. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'une entreprise vient se créer, la première des choses qu'on doit lui demander, c'est de nous produire un cadre référentiel ou un cadre prévisionnel d'emploi. Il doit nous dire, par exemple, aujourd'hui, dès que je vais commencer, j'aurai 100 travailleurs. Après une année, ça sera 200. Après 5 ans, ça sera 1000. Ainsi de suite. Et voici les profils de gens que nous allons recruter au fil des années. Toutes ces informations sont partagées avec les universités, avec des centres spécialisés, pour permettre aux jeunes d'accéder à ces informations, de se préparer par rapport à ces gens d'emploi. Mais chez nous, toutes ces histoires-là ne se font pas. Les entreprises se créent, on ne sait pas combien d'agents ils ont besoin, quel type de profil, on est subitement surpris de trouver qu'il y a des gens déjà qui commencent à travailler. Donc il y a une faiblesse au niveau de la politique d'emploi dans notre pays, et c'est là où nous, en tant que spécialistes, nous ne cessons de dire que comment pourriez-vous accepter que nous avons un ministère de l'Emploi, mais on ne sait pas nous dire chaque année, voici cette année, nous avons autant d'emplois créés, autant de jeunes qui ont trouvé du travail. Donc c'est absurde. Donc le travail est de tous les côtés. Je crois que le gouvernement doit faire son travail pour arriver à élaborer une politique efficace. Mais aussi, l'université doit cesser de fonctionner comme s'il se retrouvait à l'espace et sans tenir compte des réalités professionnelles pour pouvoir adapter le contenu de formation qu'on donne aux jeunes.
D'accord, donc la préparation à l'emploi, vous avez dit, donc c'est là que doit commencer déjà au niveau de l'université, mais que peut être le rôle de l'ONEM, l'Office National de l'Emploi, dans l'encadrement des chômeurs et des demandeurs d'emploi?
Mais excusez-moi, je dis, aujourd'hui, quand vous allez à l'ONEM, l'ONEM, son rôle, c'est de donner des cartes de chômeurs et d'afficher les offres. Mais et, quand vous lisez l'ordonnance qui a créé l'ONEM, ils ne font pas exactement leur travail. Ils sont là en train d'afficher les offres et donner les cartes de chômeurs. Et alors qu'ils devaient jouer un rôle très, très important dans la recherche des emplois des jeunes, en mettant en place des stratégies efficaces. Mais nous sommes là, nous n'apprenons pas que l'ONEM est en train d'organiser quoi que ce soit de concret pour aider les jeunes. Donc l'ONEM, c'est une institution technique du gouvernement, du ministère de l'Emploi. Donc ils doivent au contraire aider les ministères à arriver à définir avec le concours des experts des politiques efficaces en ce qui concerne l'emploi. Parce que, à mon humble avis, l'ONEM, c'est une coquille vide.
Voilà, et toi, vous avez parlé du coaching. Et où est-ce qu'on peut trouver les jeunes qui sont à la recherche d'emploi? Où est-ce qu'ils peuvent trouver les coachs qui peuvent les aider à trouver rapidement du travail?
Ok, il y a plusieurs cabinets. Je gère un cabinet à Lubumbashi, LM Consulting. Donc, et à Kinshasa, il y a l'Impoutou, il y a plus, qui a aussi une structure. Il y a plusieurs structures à travers les pays qui offrent ce genre de d'expertise à la jeunesse. Donc, que les jeunes soient aussi ouverts, comme je l'ai dit, tu n'as pas l'emploi, il ne faut pas commencer à te réveiller à 11h alors que tu habites chez ton frère, tu ne fais que réclamer le foufou, on te donne peu de nourriture, toi ton travail c'est de jouer au jeu des dames, d'aller déambuler ça et là sans rien faire. Donc les jeunes doivent chercher des structures d'encadrement, ils doivent chercher des informations par rapport à l'emploi. C'est ça le travail qu'ils doivent faire.
Voilà, le troisième élément, les galops d'essai, ils peuvent aller chercher, faire des stages professionnels, les bénévolats, les volontariats. Mais on sait qu'ici chez nous, le volontariat, ça c'est un problème. Chaque jeune vise d'abord l'argent. Il veut trouver un endroit où il aura rapidement de l'argent. Est-ce que vous pensez que le volontariat, ça peut se faire ici chez nous?
Oui, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Les jeunes doivent savoir que pour arriver à avoir de l'argent, il faut dépenser soit l'argent, soit son énergie. Donc, si on veut avoir l'argent sans sacrifice, ça serait très difficile. C'est cette culture de la facilité qui a détruit la plupart de jeunes parmi nous, qui pensent qu'on doit tout gagner facilement. Il y a des structures qui sont là, qui sont prêtes à vous offrir la possibilité de faire le bénévolat, le volontariat, mais au retour, au moins, ils vous donnent la chance d'avoir une certaine expérience en travaillant, une courte expérience et aussi une attestation. Donc, les jeunes ne doivent pas se décourager, ils doivent chercher ce genre de structure et faire le volontariat pour un temps et pour la suite, il trouvera qu'il pourra améliorer son revenu lorsqu'il va trouver le travail.
Voilà, revenons, parlons du dernier point, les salons d'emploi. Que faire pour, il faudrait peut-être commencer, penser à organiser plusieurs salons d'emploi à travers tout le pays pour donner aux jeunes la chance de rencontrer les recruteurs et d'échanger avec les experts.
Oui, je crois que c'est ce qu'il faudra faire et c'est ce que nous sommes en train de travailler. Il y avait un salon d'emploi à Lubumbashi où on a participé activement. Nous avons aussi organisé un job conférence avec Medimas à Kolwezi où il y a eu plus de 500 jeunes. Ensemble avec Medimas, d'ailleurs, nous sommes en train de... Medimas, c'est Média pour l'éducation des masses. C'est une ONG sur laquelle nous sommes en train de vouloir mettre en place des programmes. Cette année, je pense que nous allons organiser 2 ou 3 salons dans différentes provinces de la République pour permettre aux jeunes, effectivement, d'entrer en contact avec le recruteur et de s'échanger sur des questions ayant trait à l'expérience professionnelle et au profil recherché par ce genre d'entreprise.
Bien, Yves Daniel Ngavan, spécialiste en ressources humaines, merci. Peut-être que les auditeurs veulent poursuivre la discussion avec vous après l'émission. Un numéro de téléphone?
Oui, c'est toujours le 081.
Oui.
161-21-26.
081-166-21-26. Merci et bonne journée à Lubumbashi.
Merci à vous aussi.